Bonjour Vincent Kaufmann.
Bonjour.
Alors, vous êtes directeur du laboratoire de sociologie urbaine, le LASUR, à l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Vous êtes surtout sociologue, spécialiste des questions de mobilité, et dans le cadre de vos travaux, vous avez développé le concept de motilité. Pouvez-vous nous expliquer comment ce concept permet de mieux penser les inégalités sociales et spatiales face à la mobilité ?
Donc le concept de motilité, effectivement, il vient de ma condition de sociologue, on pourrait dire. Quand j'ai commencé à travailler sur la mobilité, c'était pour ma thèse de doctorat, c'était fin des années 80. Et en fait, bon, à cette époque, ça a peut-être un petit peu changé, mais la mobilité, c'était quelque chose de très géographique. La mobilité, c'était du franchissement de l'espace, ça se mesurait, ça se cartographiait, donc c'était assez insatisfaisant pour le sociologue que j'étais et que je suis toujours. C'est-à-dire que c'était pas quelque chose qu'on arrivait à analyser à l'intérieur des acteurs. Hein, c'était extérieur, c'était quelque chose qu'on pouvait, voilà, qu'on pouvait montrer. Donc c'était quelque part que spatial et pas social, c'était que activé, c'est-à-dire c'est un déplacement qui est réalisé et ça n'était pas potentiel, et puis c'était neutre et ça permettait pas de parler de la mobilité en termes de valeur. Donc ça, c'est trois limitations qui m'étaient apparues et qui m'ont poussé à inventer un mot dont on a dit parfois que c'était une faute de frappe. Alors, je ne l'ai pas inventé, c'est un mot qui vient de la biologie. En biologie, c'est une notion qui signifie aptitude à se mouvoir. Hein, le canard a une motilité très étendue, par exemple, puisqu'il peut nager, il peut voler, il peut se déplacer également sur la terre ferme. Voilà, c'est juste pour donner un exemple. Donc, par analogie, la motilité, c'est l'aptitude à se mouvoir. Donc quelque part, c'est la mobilité à l'intérieur des acteurs. Alors ça peut être des personnes, ça peut aussi être des acteurs collectifs. Mais si on commence peut-être par les personnes, donc qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que chacun d'entre nous est doué de mobilité à travers un certain nombre d'accès auxquels on a au réseau. Par exemple, on peut avoir ou pas une voiture, on peut avoir ou pas un abonnement de transport en commun, on peut avoir ou pas un vélo qui donc contribue, disons, à définir nos possibilités en matière de déplacement. Mais ça ne se résume pas juste à cette question d'accès, il y a évidemment aussi des questions de compétences. Alors la compétence type, c'est le permis de conduire pour pouvoir conduire. On peut avoir une voiture dans le garage, mais si on n'a pas le permis de conduire, on n'a pas le droit de la conduire et peut-être qu'on ne sait pas la conduire. Mais plus généralement, on mobilise beaucoup d'autres compétences quand on se déplace. La capacité à s'orienter, la capacité à lire une carte, la capacité à imaginer dans un programme d'activité de la vie quotidienne si finalement ce qu'on a prévu, est-ce qu'on sera à l'heure, est-ce qu'on sera fatigué le soir, est-ce que finalement ça va être quelque chose d'agréable à vivre ou pas. Donc toutes ces capacités organisationnelles. Donc ça, c'est tout ce deuxième ensemble qui est aussi un aspect qui est très important des compétences. Et puis troisième aspect de la motilité qu'on a appelé l'appropriation, qu'on a ensuite renommé le projet, mais je dirais à la limite, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est l'idée qu'il y a derrière. C'est de se dire, indépendamment des accès que l'on a ou qu'on n'a pas au réseau, des compétences dont on dispose, il y a des choses qu'on aime faire, il y a des choses qu'on n'aime pas faire, il y a des choses qu'on envisage de faire, et donc c'est cette dimension plus projectuelle de la mobilité. On peut avoir accès, on peut habiter une ville où il y a un réseau de TGV très, très développé, qui permet d'aller à la mer, qui permet d'aller à Paris, qui permet d'aller je ne sais où, et on peut être attiré ou pas par ces destinations. Si on ne l'est pas, indépendamment du fait qu'on a l'argent et les compétences pour utiliser ces offres, on n'ira probablement pas. Donc quand on met ensemble ces trois dimensions, l'accès, les compétences et l'appropriation, ça permet de définir de façon relativement large cette aptitude à se mouvoir que l'on a tous, et ça permet de révéler effectivement des inégalités sociales, peut-être d'une manière un petit peu différente. de simplement ce qu'on peut révéler avec le niveau d'éducation ou le revenu. C'est quelque chose qui est pas complètement collé aux capitaux classiques, par exemple, tels que ceux qui ont été mis en évidence par Pierre Bourdieu.
Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur en quoi la motilité permet de penser les inégalités sociales et spatiales ?
Alors, ce qu'on a pu mettre en évidence, alors là, c'est plutôt en utilisant la notion de motilité pour faire de la recherche empirique, c'est que la motilité permet de révéler des inégalités qu'on n'arrive pas à identifier simplement en termes d'inégalité de genre, d'inégalité de revenus ou d'inégalité de niveau d'éducation ou de relations sociales. C'est-à-dire qu'il y a la compétence, la capacité à se déplacer dans l'espace, à se projeter dans le temps et dans l'espace, n'est pas complètement associée à ces autres dimensions des inégalités, ce qui fait que ça peut être parfois l'arme du pauvre. C'est-à-dire qu'on trouve des personnes, notamment dans des situations d'emploi précaire, qui sont capables d'imaginer des solutions extrêmement inventives pour réussir à prendre un travail à 200 km de chez eux sans que ça coûte trop cher. Et donc ça suppose de mobiliser des réseaux de connaissances pour avoir accès à des véhicules ou de trouver une solution pour avoir une chambre gratuitement ou pas cher chez des amis, etc. Donc voilà, c'est toute cette capacité à se débrouiller pour finalement faire face à des contraintes qui peut parfois être vraiment un atout par rapport à d'autres inégalités plus structurelles.
Ce concept de motilité, est-ce qu'il est équivalent pour vous à celui de capital de mobilité ? En quoi s'en distinguerait-il ?
Alors, quand on a développé cette notion de motilité, on avait en arrière-fond l'idée que ça pouvait être une forme de capital au sens de Pierre Bourdieu, et qu'en particulier, parce que la critique qu'on peut faire aux capitaux de Bourdieu, c'est que c'est une vision assez statique de la société, et que ce capital de mobilité, il pouvait donner peut-être une dynamique à ces autres capitaux en mettant en évidence comment finalement on pouvait peut-être plus facilement accéder à d'autres positions. Donc la motilité comme capital, on peut par exemple la penser par rapport à la mobilité sociale en disant une grande aptitude à se mouvoir dans l'espace et dans le temps peut permettre d'embrayer dans une carrière professionnelle ascendante, donc une mobilité sociale ascendante au sens le plus classique du terme en sociologie, et le fait d'être doué en matière de motilité, est un atout, y compris pour des personnes qui peut-être viennent de milieux défavorisés. Donc ça, c'est des choses qu'on peut effectivement mettre en évidence. Maintenant, donc, on peut dire que la motilité est une forme de capital, c'est des choses qu'on a écrites dans des articles qui ont été débattus. Je pense que c'est pas que ça. Moi, je le verrais de façon plus large, comme simplement peut-être une ressource pour l'action au sens large.
Le droit à la mobilité est-il une réponse adaptée, selon vous, au développement des inégalités sociales et spatiales face à la mobilité ? À l'inverse, comment éviter des formes d'injonction à la mobilité ?
Le droit à la mobilité, moi, ce qui m'embête dans le droit à la mobilité, c'est que, quelque part, c'est souvent considéré comme un droit au transport. C'est-à-dire, il faut desservir les quartiers populaires avec des tramways, ou les quartiers défavorisés avec des tramways, il faut que tout le monde puisse avoir accès à la ville. Il faut qu'il y ait des possibilités de se déplacer qui soient équitables, etc. Ce qu'on voit très bien dans beaucoup de travaux de recherche en sociologie urbaine sur ces questions-là, c'est qu'il ne suffit pas d'offrir un potentiel dans un quartier, d'amener de l'accessibilité pour que ce soit utilisé. Et donc moi, plutôt que de droit à la mobilité, moi j'aurais tendance à parler de droit à la motilité. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est que les gens aient des projets de mobilité. Ce qui est important, c'est qu'ils aient des compétences. Simplement avoir des accès, ça n'est pas suffisant. Et ça, c'est quelque chose que j'ai souvent été amené à dire dans des contacts qu'on a pu avoir avec des pouvoirs publics en disant ne restez pas sur simplement une politique de l'accès, l'acquisition de compétences, voilà, l'appropriation de ce que l'on offre, c'est quelque chose qui est extrêmement important, sinon les inégalités restent. On le voit dans des domaines qui n'ont rien à voir avec les transports, on le voit avec l'accès à la culture, les musées gratuits, ça ne suffit pas pour que des gens de quartiers populaires viennent au musée. L'opéra à 10 francs, ça ne permet pas d'avoir forcément des jeunes de banlieue à l'opéra, même si à la limite l'opéra il est dans un quartier populaire. Donc il faut plus que ça, il y a toute une question, il y a une question de compétences, il y a une question d'apprendre peut-être à aimer ces choses-là aussi.
En quoi, à l'inverse, ça peut produire des formes d'injonction à la mobilité ?
Alors, ça, c'est un petit peu toute la question. Je pense que la mobilité, c'est une notion... Alors, c'est un mot valise qui est extrêmement... qui a des sens très différents. Moi, j'en vois deux dont qu'il faut bien distinguer, disons, si on veut travailler sur ces questions-là. Il y a la mobilité comme phénomène social, donc qui est large et qui n'est pas forcément porteur en tant que tel d'une valeur, c'est le changement de position dans une société, voilà, que l'on peut penser selon différentes épistémologies. Et puis il y a la mobilité comme valeur, et souvent on l'oppose peut-être, on dit ben voilà, finalement la mobilité, l'injonction à la mobilité, c'est quelque chose qui se développe dans des sociétés néolibérales, donc ça veut dire qu'on exige de la flexibilité dans le temps et dans l'espace, qu'on exige finalement voilà, de la population de bouger vite, loin, souvent, que finalement on n'a pas vraiment le choix, etc. Et moi, j'ai une vision plus large de la mobilité. Ça, c'est une partie de la mobilité. C'est associé à une certaine motilité, mais il peut y avoir d'autres formes de mobilité et de motilité. Pour moi, déménager, migrer, c'est aussi une forme de mobilité qui est associée à des compétences spécifiques. Qui a habité un autre pays ou une autre région que celle où il a toujours résidé le sait, ça suppose de se déraciner d'un endroit, de se réenraciner ailleurs. Il y a souvent la barrière de la langue, mais ça veut aussi dire de se recomposer des réseaux sociaux, de se recomposer un rapport familier à son nouvel espace. Et donc ça, c'est des compétences qui sont de nature extrêmement différente que la capacité à utiliser son temps dans le train pour pouvoir être le plus efficace possible, ce qui est souvent demandé, effectivement, dans le monde connexionniste dans lequel on vit et qui renvoie à cette espèce d'injonction à la mobilité. Donc moi, j'ai tendance à élargir un petit peu le propos.
Merci beaucoup.